Dans Interception ce dimanche, on manque de tout à l'autre bout du monde et on manque souvent de neige au pied des montagnes. Dans les deux cas, nous sommes en France et dans les deux cas, la question est la même. Qu'est-ce qu'on veut pour nos territoires et quels moyens on se donne pour les faire vivre ?
Interception. Fabienne Sintès sur France Inter.
Respirez à plein poumon. En face de vous, par temps clair, il y a la chaîne de Belledonne, le Mont Blanc, le Vercors et les Grandes Rousses. Bienvenue à Saint-Hilaire-du-Touvet, pas très loin de Grenoble. On est bien dans une station de ski, mais à mille lieues des pistes des JO de Milan-Cortina, rien à voir non plus avec les immenses domaines skiables qui pourtant ne sont pas très loin. Nous sommes dans une de ces petites stations fondées comme des dizaines d'autres dans les années 60. Saint-Hilaire-du-Touvet a fermé en 2021. Les rails du funiculaire qui venaient de la vallée transporter les skieurs jusqu'au bas des pistes ont été emportés par une coulée de boue. De toute façon, il neige de moins en moins et embaucher des saisonniers, ce n'est plus rentable. Sauf que le village s'est dit « Mais moi, je veux les retrouver, les pistes de mon enfance. » Ils sont partis, tout chousse. Sur 2000 habitants, 200 se sont portés volontaires. Chiche qu'on rouvre la station les week-ends de neige. Ils ont créé l'association Agile.
On s'est appelé Agile parce qu'on pense qu'il faut être très agile, rapidement tout mettre en place pour pouvoir accueillir des gens qui vont venir skier. Si la neige tombe aujourd'hui, il faut qu'ils puissent venir le lendemain, quoi. Voire même le jour même si on peut. Donc là, au niveau fonctionnement global, on se débrouille. Mais on se débrouille pas si mal.
Ils se sont tous formés, les bénévoles. Et à chaque chute de neige, branle-bas de combat, tout le monde à son poste. Justement, le jour où Antoine Gignot est arrivé, ça sentait bon la poudreuse.
Waouh, belle neige.
La bonne neige.
Il y a combien ?
Un petit 10.
Hein ? Ah, il est un peu humide.
12.
12 cm, il a dit.
Ouais.
Dans ses cils,
densité.
Cohésion de frittage.
Franchement, le damage, ça va être royal.
Trop beau. Je suis Pasquale Lacroix. Je suis membre de l'association Agile, qui s'est constituée il y a 3 ans. Dans cette association, l'idée, c'est d'exploiter les remontées mécaniques de Saint-Hilaire. Éventuellement, s'il y a de la neige, de faire du ski, avec toutes les personnes qui veulent bien venir avec nous. Là, on est au pied du domaine, il fait nuit, tout est calme. Il faut imaginer que quand il neige comme ça, ça étouffe tous les sons. Donc on est vraiment dans un silence assez magique, on entend vraiment le bruit de ses pas. Et là, on devine au-dessus la montagne qui nous surplombe, la falaise de la Dent de Crôle. Et là, on attend qu'une chose, c'est que le soleil vient illuminer tout ça et qu'on puisse profiter des joies de la glisse avec tous les copains du plateau et d'ailleurs. Là, dans l'association, on est plus de 200, donc c'est un dixième du village en fait qui fait partie de cette association. Voilà, partager les plaisirs, rien que le plaisir d'être, en fait, de se réapproprier un commun aussi, parce qu'on est plus que consommateur, on est acteur en fait de ce ski, et ça rend la transmission en fait du plaisir vachement plus forte.
Il est 5h du matin et la dameuse est en train de sortir du hangar au bas des pistes.
Je laisse marcher sur les lames de la chenille.
Ok, tip top, et puis on peut fermer la porte.
Moi, je m'appelle Kevin, j'ai 32 ans. Ma partie à moi, c'est le damage la nuit pour l'association Agile.
Et dans la vie ?
Et dans la vie, je suis pompier professionnel sur la région grenobloise.
Là, on est vraiment en bas du domaine. Hein.
Domaine qui fait, si on résume, il y a 11 pistes.
Il y a 11 pistes, c'est ça, et il y a 5 remontées mécaniques en tout.
Vous avez rejoint l'association quand ? À la création, il y a 3 ans ?
Exactement, moi j'ai rejoint l'association assez rapidement, dès qu'ils ont commencé à demander un peu des bénévoles dans tous les corps de métier. C'est des choses, c'est surtout un métier qui s'apprend sur le tas. Du coup, on est environ 5 à être formé sur le damage. Je suis natif du village et j'ai appris à skier ici. Donc c'est ça aussi, hein, c'est un petit côté aussi un peu nostalgique de se dire qu'on n'a pas envie de voir disparaître notre petite station de village. C'est assez terrible parce que ça en devient une addiction quasiment l'hiver. On est en permanence branché sur la météo pour se rassurer ou des fois s'inquiéter. Plus souvent s'inquiéter à nos altitudes que se rassurer. Même si cette année, on a quand même, faut se le dire, un peu de la chance. Hein, on a pris. Là, en cumulé depuis le début de l'année, on doit être avec la chute de cette nuit, on doit être à 1m30, 1m40. Mais à nos altitudes, on prend la neige et puis le lendemain il pleut, le lendemain il neige, le lendemain on a le vent du sud et du coup c'est très très compliqué. C'est le problème des stations maintenant de moyenne et basse altitude. Pas si simple. On voit un petit peu le village là. On commence à avoir les lumières du village qui s'allument. Et donc on a toute la piste qui est devant nous, là, la pente de la piste qui est devant nous. Là.
Il est 8h30 du matin. Les bénévoles sont en train d'arriver avec des filets, des perches, des piquets pour sécuriser le domaine et les dameuses rentrent au garage.
Et voilà.
Test pour Nicolas.
Voilà, moi je suis Joseph Vissier. Et je fais partie des bénévoles dans cette station. Je suis un des plus anciens puisque j'ai vu la station se construire à la fin des années 60.
Aujourd'hui, vous avez quel âge ?
Et aujourd'hui, ben, j'ai 76 ans.
Retraité, mais pas pour le ski.
Voilà, donc je donne un coup de main à la station de ski. Et voilà. On est en train d'installer tous les filets qui permettent après aux gens, lorsqu'ils arrivent, de se ranger correctement afin de prendre le téléski sans se bousculer et à sécuriser aussi la plateforme de départ.
Aujourd'hui, l'association s'appelle Agile, c'est pas un hasard, il faut vraiment être là au moment où ça tombe.
Oui, c'est vrai, on s'est appelé Agile parce qu'on pense qu'il faut être très agile, c'est-à-dire rapidement tout mettre en place pour pouvoir accueillir des gens qui vont venir skier. Si la neige tombe aujourd'hui, bah, il faut qu'ils puissent venir le lendemain, quoi. Voire même le jour même si on peut. Donc là, au niveau fonctionnement global, on se débrouille. Mais on se débrouille pas si mal. Non, c'est un grand plaisir d'accueillir, de voir la tête des gens ici qui débarquent et qui disent oh, « Merci pour ce que vous faites
ouais. !» Il y a un lien aussi, ça fait un lien entre vous, habitants de la commune ?
Alors oui, effectivement, oui. Moi, personnellement, je rencontre plein de gens que je connaissais pas. Et ça crée un lien social, une entraide, c'est assez incroyable, c'est assez fabuleux. Moi, c'est probablement une de mes premières motivations.
Mais là, en fait, c'est éclaté, elle nous ralentit.
Elle est bonne parce que là, elle est bien damée. Ce serait encore mieux si elle avait du soleil.
Toi, t'habites dans le village ou t'es venu exprès ?
J'habite dans le village.
Ouais. Donc t'as appris à skier ici ?
Ouais, avec mes parents.
Ouais. Merci. Juste ton prénom ?
Pablo.
Et ben voilà, les enfants du plateau qui ont appris à skier là et qui viennent dès l'ouverture.
Ouais. Bonjour. C'est pour prendre un forfait journée, s'il vous plaît. Ouais.
Tech. Tarif journée, c'est quoi ?
C'est 12 euros. Ouais, parce qu'on est étudiant, du coup c'est bien.
Sinon c'est 15 euros. Pas cher.
Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.
Bonjour. Je vais vous prendre deux forfaits étudiants journée, s'il vous plaît.
Alors moi c'est Valentin, je suis dans un lycée horticole à Saint-Igné. Pas loin d'ici, ouais.
Donc là c'est retour aux sources.
Bah moi je suis vraiment content déjà qu'il y ait eu l'association des bénévoles pour faire revivre le plateau. C'est quand même un petit coin vraiment sympa, le cadre est vraiment magnifique et puis du coup ce qui est en face aussi de Beldon, c'est hyper joli.
Il y a des canons à neige qu'on utilise quand même encore un peu ici, est-ce que ça a encore du sens et jusqu'à quand est-ce que ça aura du sens ?
On va pas forcer le truc, hein. S'il y en a pas, il y en a pas, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses à faire, des randonnées, compagnie. Tout le monde ne tourne pas autour du ski, c'est un plus, c'est un plaisir.
Donc là c'est ski ou c'est snow, c'est quoi, c'est ski?
C'est ski,
ski,
ouais.
Ski à fond, ouais.
Parce que c'est journée backflip aujourd'hui, c'est journée backflip. Voilà. Moi c'est Garaz Nasrallah, jeune breton qui s'est installé dans le coin pour le paysage.
Au milieu des skieurs et des snowboarders, on va tenter de retrouver Pascual Lacroix, chercheur à l'université de Grenoble et qui est l'un des bénévoles historiques de l'association.
3 ans en arrière, en fait, toutes les personnes qui allaient se constituer en association ne savaient pas ce que c'était que la gestion d'une station de ski, moi le premier. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était vraiment le lien social. Et du coup, ben, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on tente l'aventure, finalement. Et pour ça, il a fallu surmonter quelques épreuves. Alors, il y en a eu une qui était de trouver un assureur pour cette station. Et ensuite, il a fallu aussi passer par des procédures. Et notamment, en fait, toutes les stations de ski, elles sont contrôlées par un organe de l'État pour garantir en fait, un minimum de sécurité et garantir qu'en fait, il y a l'organisation en termes d'exploitation qui rentre dans des règles. Donc ça, bah, il a fallu montrer patte blanche, montrer qu'on savait manier des téléskis, qu'on savait les maintenir, qu'on avait la sécurité suffisante pour pouvoir accueillir du public. Voilà, comme on n'était pas du tout des professionnels du métier, bah, la première chose qu'on a dû faire, c'est se former. Et donc une grosse partie de cette aventure, ça a été la formation. Et comme ça, on a formé des mécanos, des chefs d'exploitation, qui sont montés en compétences, et maintenant on a une équipe d'une quinzaine de mécanos qui sont capables de remonter sur les pylônes pour réparer une roue, alors que voilà, il y a 3 ans, ils ne savaient pas du tout faire ça.
Niveau financier, qu'est-ce qu'il faut pour être à l'équilibre?
Alors il faut un petit ticket d'entrée au début qui est pas négligeable. Voilà, on parle de 10-15 000 euros quand même. Il faut pouvoir assurer ça en début de saison. Et une fois que ça s'est lancé, ben le côté bénévole permet en fait de faire tourner la station sans beaucoup de moyens.
Les dépenses, c'est quoi? C'est essentiellement l'énergie?
C'est un peu d'énergie parce qu'on a des enneigeurs et c'est beaucoup les assurances.
T'as quel âge?
8 ans.
Balèze.
Donc moi, je m'appelle Olivier Prache, un joaillier retraité. J'étais instit ici, directeur de l'école primaire pendant 25 ans. Concernant la station, ben je suis responsable de la sécurité des pistes. On est vraiment monté en compétence. La première année, quand on a démarré, on était vraiment des rigolos, quoi. Et tout le monde nous prenait vraiment pour des rigolos.
Ça veut dire que c'est installé dans la durée?
Ben, c'est-à-dire qu'on a investi beaucoup d'énergie, de temps, et maintenant, on sait faire, quoi. Maintenant, ça va plus vite, c'est plus sous contrôle, donc c'est plus simple de durer. Mais on a quand même besoin d'avoir une grosse assise bénévole, on a besoin d'être soutenu. On est tout petit, nous, on pèse rien. Parce que dans les mêmes réunions, il y a les gens de la SATA ou de la Compagnie des Alpes qui représentent un fric fou, un nombre de skieurs complètement dingue. Et nous, on est là aussi, on existe. Et puis, il y a d'autres stations encore plus petites que la nôtre, hein, qui ont un téléski. Et tout ce monde-là cohabite. Et puis, les gros, ils ont besoin des petits, parce que c'est ici qu'on apprend, c'est ici qu'on donne envie. Les gens, ils vont pas payer 70 euros de forfait pour prendre le téléski, puis qu'au bout d'une demi-heure, le gamin, il dit « je veux rentrer à la maison ». Et du coup, la solidarité, ben, au début, c'était un mot. Et puis, ça devient concret. Alors, on a eu, nous, ici, un pisteur qui a grandi ici, qui est pisteur aux Arcs, et qui a mis la pression à ses chefs en disant « faut vraiment accompagner Saint-Ile, c'est trop bon ce qu'ils font, là, faut y aller ». Du coup, ben, ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés en nous donnant du matériel. Pour la sécurité des pistes, on a besoin de plein de panneaux, de trucs comme ça, mais ils nous ont donné. Et puis des pièces de téléski. C'est récent, cette question de solidarité. Parce qu'en fait, les petites stations meurent.
Oh. Il a fallu 3 téléskis, 3 tire-fesses à l'ancienne, avec des secousses, pour arriver en haut de la station. Panorama magnifique avec la Chartreuse juste en face de nous et le massif de Belledonne de l'autre côté. Ici on est à 1300 mètres.
Cécile Colléou, j'habite sur le plateau des Petites Roches et je suis retraitée de Météo France.
Et bénévole dans l'association?
et bien sûr bénévole dans l'association Agile.
Alors justement, là on est face au massif de Belledonne, on a de la neige qui est tombée cette nuit, et pour autant tout ça est assez éphémère.
Bah, ici, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Si on prend la référence d'un hiver sur cinq, où on a un enneigement très faible, dans 25 ans, d'ici 2050, bah, ça sera un hiver sur deux. Et ça va encore s'accélérer.
On est dans un territoire qui vote très largement écolo, ici, à l'échelle du secteur Rhône-Alpes. Pour autant, il y a le coût énergétique de fonctionnement des remontées, les canons à neige qui tournent un peu quand c'est nécessaire. On jongle entre deux mondes qui sont compliqués.
Tout à fait. Et on est nombreux dans cette association aussi à avoir cette fibre écolo. Et du coup, sans arrêt, à se poser des questions. Mais on a même des canons à neige. Quel est le coût économique, mais le coût écologique? On dame des pistes pour pouvoir skier. Mais en fait aussi, les gens qui skient ici aujourd'hui, vu la neige qui est tombée, ils seraient peut-être allés en face, ils auraient pris leur voiture. Donc il faut aussi balancer aujourd'hui avec ça pour pouvoir faire des choix. Et effectivement, parfois, on est en contradiction avec nos convictions.
Des enfants, des snowboards, des petits groupes, des promeneurs qui passent avec des pots de phoque. Carrément sans le téléski.
Comme ça, il y en a pour tout le monde.
Absolument.
Avec téléski pour les enfants, sans pour les parents. Donc, je m'appelle Anouchka, donc je suis bénévole dans l'association. Et dans la vie, je suis maman et je travaille aussi en tant que prévisionniste avalanche et chercheuse sur le manteau neigeux. Pour moi, la question, elle est vraiment politique au sens noble du terme, à savoir qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire et quels moyens on se donne pour y arriver. Et on le fait, tout le monde se mobilise. C'est très beau.
Vous avez vraiment les larmes aux yeux en plus.
Mais j'ai vraiment les larmes aux yeux, le fait que le ski scolaire ait repris cette année au bout de 5 ans et que sur cette classe de CP, bah, il y avait la moitié des enfants qui n'avaient jamais skié. Certains pour des raisons économiques, et que tout le monde se soit mobilisé pour cette petite trentaine de gamins. Je suis vraiment contente qu'il y ait cette solidarité et d'habiter ici et de pouvoir le vivre. Et il y a 10 jours, il y a eu une chute fantastique là. Bah, il y a des anciennes du village de 80 ans qui n'avaient pas remis les skis depuis 10 ans et qui les ont ressortis en disant « Oh bah quand même !» Et ça, bah voilà, on pense le faire pour les enfants et en fait on le fait pour tout le monde et c'est vraiment beau et ça fait du bien par les temps qui courent.
Saint-Hilaire-du-Touvet, la station de ski qui remonte la pente, un reportage d'Antoine Gignot.
France Inter, Interception.
Nous sommes à l'autre bout du monde, mais en France. Voici Mayotte et la ville de Kungu, dans le nord de l'île. Vous allez bientôt entrer dans un quartier qui s'appelle Barakani. Toutes les maisons de ce quartier ont été reconstruites immédiatement après le passage de l'ouragan Chido le 14 décembre 2024. Les habitants se sont mis au travail tout seuls, avec de la tôle et de la boue. De toute façon, pas de logement disponible et encore moins d'argent pour payer quoi que ce soit. Vous allez passer une journée dans la vie de Sylvia, qui habite ici, avec sa mère et ses sœurs. Elle a 20 ans. Elle a son bac. Et qu'est-ce qu'on fait à Mayotte quand on a 20 ans, pas les moyens d'aller à Paris et une famille à aider? Sylvia va vous raconter qu'elle a décroché un petit service civique. Elle aide les plus âgés avec leurs factures d'eau. L'eau, c'est de l'or ici. Elle dit surtout que tout le monde est en crise à Mayotte depuis Chido. Elle voit bien que ceux qui le peuvent s'en vont. Elle n'a jamais quitté son île. Sylvia, Laurent Kramer l'avait rencontrée l'année dernière. Après le passage de l'ouragan, il est revenu prendre des nouvelles. Rendez-vous d'abord devant la maison.
Voilà, on arrive dans le quartier de Barakani. On est accueilli par la maman de Sylvia.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va.
Je peux vous demander votre prénom ?
Roumadi Souza.
Vous êtes la maman de Sylvia ?
Oui, je suis la maman de Sylvia.
Vous êtes une dame très élégante.
Merci. Merci beaucoup.
Il y a combien de familles qui habitent ici?
Beaucoup. Il y a plein de maisons jusqu'à la plage. Il y a beaucoup de monde.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce quartier?
Ça fait longtemps.
Je crois que les filles sont nées ici. Oui, vous avez vécu ici tout le temps, en fait.
Mes enfants sont nés ici. Mais pendant Chido, c'est catastrophe. Tout saccagé, mais... C'est moi que j'ai construit toute la maison, moi seule, avec les enfants. Même si c'est moche, mais je suis fière.
Vous avez mis combien de temps pour reconstruire tout ça? C'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que c'est assez grand, en fait, ici.
Je fais 2 mois à fabriquer.
Vous pouvez nous montrer?
C'est moche, regarde, dehors. Quand il y a de la pluie, ça rentre dedans, là.
Vous avez l'eau qui rentre dans la maison?
Oui, l'eau qui rentre beaucoup.
En fait, c'est une grande maison recouverte de tôles, avec des tôles sur les côtés. Il y a une sorte de grillage pour tenir tout ça.
Oui. Venez, on va aller là-bas.
On est dans un grand passage en terre rouge. Il y a des tôles de 2,50 m de haut, avec des grillages. Donc là, on rentre dans la maison. Beaucoup de cailloux par terre. Des grandes pièces, il fait très chaud, il y a beaucoup de plantes.
Tu vois la marmite là, tout ça là, il y a l'eau qui descend.
Deux petits chiens, très sympa.
Ici c'est chez moi.
Donc ça fait une pièce de 20 mètres carrés. Avec un toit de tôle, il fait très chaud hein, dans la maison.
Moi, je ne reste pas à cette heure-là. Je ne reste pas là, c'est trop chaud. On sort tous dehors à éviter le chaud.
Ça a coûté combien de refaire la maison?
Ah, c'est beaucoup d'argent. Hein. 1 kilo de clous, c'est 20 euros, 25 euros, comme ça. Je n'ai pas le choix, il faut que j'achète. J'ai mangé tout avec mes enfants, l'argent que j'ai. Tout gaspillé.
Pour reconstruire cette maison?
Oui.
Elle est là, Sylvia, on peut la voir?
Oui, elle est là-bas.
On va la voir. Hello, Sylvia, ça va?
Bonjour, ça va et vous? Vous savez, jusqu'à maintenant, il y a des gens, ils n'arrivent pas à reconstruire leur maison. Même nous, là, notre maison, on l'a juste fait comme ça, mais quand il y a la pluie, il y a vraiment de l'eau qui descend chez nous là-bas. Et t'es pas en sécurité. C'est vraiment difficile de dormir ici le soir. On fait tout le temps des nuits blanches. En gros, on doit être tout le temps vigilante à la maison. On n'est jamais tranquille et on dort jamais. Regarde, même là, il n'y a pas de vent, mais on entend avec le bruit des tôles.
Oui, ça tangue, on a l'impression d'être comme sur un bateau un peu.
Oui, on a l'impression comme si on était dans un bateau, genre vers la mer là-bas avec le vent et tout. Je me sens tout le temps en danger à chaque fois que j'entends des bruits d'or. Nous, on va penser que c'est la pluie ou c'est le vent, alors qu'il y a déjà quelqu'un qui est rentré dans la maison qui vole quelque chose. Vu que ce sont des maisons en tôle, c'est facile de rentrer, surtout chez nous ici.
Bravo.
Non.
Bravo.
C'est qui ce monsieur?
C'est en sécurité.
Et qu'est-ce qu'il fait dans le quartier?
Bah, eux, ils sont là pour faire en gros la sécurité, mais ils ne sont pas armés. Et il n'est pas tout seul, il est avec d'autres collègues. La nuit ici, il fait tout noir. Et vu qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a personne qui peut intervenir s'il y a un problème.
Les policiers ne viennent pas?
Et les policiers ne viennent pas. Et s'il y a un blessé, les pompiers ne rentrent pas aussi ici. À Mayotte, il y a beaucoup de règlements de compte avec les jeunes. Du coup, c'est risqué. Ça veut dire dans les maisons, vraiment dans les maisons, tu es dedans, ils rentrent dedans, ils n'ont même pas peur de vous. Parce qu'ils sont armés. Eux, quand ils rentrent ici, ils viennent avec des machettes, ils sont cagoulés. Des fois, ils rentrent pour voler les trucs, de l'argent. Des fois, même, ils menacent les mamans. Quand je sors le soir, Je peux contacter les sécurités, par exemple, pour demander est-ce que je peux monter dans mon quartier ou pas. S'ils me disent non, je peux rester dormir chez une copine. Ils peuvent me dire attends, on va te rappeler. Si ça s'est calmé, tu peux monter chez toi.
Qu'est-ce qui fait à manger ici?
Soit c'est moi et ma soeur, ou soit c'est ma maman quand on n'est pas à la maison.
Vous mangez quoi en gros? Parce que c'est devenu très cher aussi sur l'île, hein, toute la nourriture.
On mange du riz et de la viande, des fois, du sardine, ça dépend. Parce que c'est pas tout le temps qu'on le mange, du coup.
Là, vous avez une grande citerne d'eau?
Oui, ça, on l'utilise quand il n'y a pas totalement de l'eau. C'est juste pour laver les assiettes et en gros faire le ménage, laver nos habits, mais c'est pas pour boire. Par exemple, là, il n'y a pas d'eau à la maison. Normalement, c'est demain soir qu'il y aura de l'eau ici, à Tchévani. C'est dans chaque village. Chacun a son emploi du temps. Et là, c'est là où je dors. On est trois dans la chambre.
T'as une très belle photo sur ton téléphone. C'est qui, cette photo?
C'est ma mère.
On dirait une chanteuse ou une grande vedette de cinéma.
Oui, ma mère, elle chantait avant, mais vu qu'elle a eu, elle a fait ses enfants et elle a tout arrêté et elle a décidé de juste prendre soin de ses enfants et au lieu de tout le temps aller sur des concerts. Et si au moins il y avait papa, peut-être elle allait continuer, mais vu qu'il n'y a pas papa, elle est obligée de laisser tout ça.
Est-ce que tu dirais que c'est différent d'avoir 20 ans à Mayotte si on compare à une situation à La Réunion ou en métropole?
Tout oui, est... c'est devenu vraiment compliqué depuis qu'il y a eu le passage de Chido. C'est vraiment pire. Tout le monde veut travailler. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde est en crise. C'est vraiment difficile de chercher une formation et un travail à Mayotte. La majorité des jeunes, quand ils ont leur bac, ils partent de Mayotte. Et c'est pas normal.
Qu'est-ce qui te fait rêver? Tu voudrais faire quoi exactement comme métier?
Je voulais être caissière, genre comptabilité, parce que j'aimais beaucoup les maths, vu que j'ai fait un bac gestion administrative, mais vu que j'ai pas trouvé l'école, là je fais une formation service civique qui dure 8 mois.
Merci de nous embarquer dans ta journée. Il est 8h du matin. C'est quoi le programme pour toi aujourd'hui?
Je fais un service civique. Je suis formée pour sensibiliser le grand public en ressources en eau, la valeur de l'eau. Ici à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès à l'eau. Du coup, ils utilisent l'eau de la pluie ou l'eau qui n'est pas potable, par exemple. Que ce soit la rivière, la mer.
Ils boivent cette eau et la consomment?
Oui. Et pour ceux qui ont l'eau potable à la maison, ils ont eu beaucoup de fuites d'eau, que ce soit sur les vols, les branchages des tuyaux, sans leur permission.
Les canalisations
abîmées. Et les canalisations abîmées aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de fuites quand il y avait le passage de Chido. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des factures qui sont importantes, vraiment avec des montants vraiment élevés qu'eux-mêmes... Ils trouvent ça pas normal, parce que c'est vraiment une somme vraiment élevée.
Et donc ton travail, c'est quoi?
De leur sensibiliser à bien lire leurs factures et aussi leur montrer comment détecter la fuite ou voir le problème sur le compteur.
Ok, ben allons-y. Toutes petites ruelles qui sont en pente, de terre rouge, de tôle ondulée. Ben, on appelait ça auparavant des bidonvilles. Au Brésil, on appellerait ça des favelas. Et ici, c'est habitat informel, comme on dit pudiquement. C'est l'habitat de grand nombre de familles qui n'ont pas les moyens de se loger sur Mayotte. On est où là, ici, Sylvia?
là, c'est le chemin qui descend vers Tchéval.
Bonjour.
Et du coup, ça, c'est mon collègue.
Service civique aussi ?
Oui, service civique aussi.
Vous pouvez monter jusqu'à combien de factures d'eau ici ?
Il y en a, c'est 2000, il y en a, c'est 500, il y en a, c'est 400, 200.
C'est énorme. Donc les gens sont un peu en panique.
Oui, ils sont en panique, ils ne savent pas comment payer leurs factures. Et là, ils ont dit que s'ils ne payent pas leurs factures, ils vont fermer l'eau.
Alors qu'ils y sont pour rien.
Là, ici, on va aller où, là ?
Là, c'est quasiment impraticable. Hein. On est sur un terrain extrêmement boueux. Il a plu toute la nuit. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de terre glaise sur tout le terrain. C'est très difficile de marcher. Ici maintenant sur une petite place arborée. C'est assez joli, il y a des maisons de toutes les couleurs, des maisons en dur, des maisons donc en parpaing. Et c'est ici donc que les gens viennent s'approvisionner en eau potable. On a devant nous donc cette petite fontaine verte qui ressemble à celle que l'on a dans les parcs parisiens, sauf qu'ici c'est payant. Hein.
C'est un tuyau-carte.
Tuyau-carte ?
Oui, on l'a placé pour les personnes qui n'ont pas l'eau potable à la maison.
Et donc, il fallait acheter des cartes ?
Il faut les acheter et le charger. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller acheter la carte et tout le temps venir là avec des bouteilles, payer la voiture pour accompagner leur bouteille à la maison.
Le chemin principal était tellement rempli de boue qu'on a fait le tour du quartier pour essayer d'accéder à une maison donc avec des familles qui ont des problèmes sur leur facture d'eau depuis le passage de Chido.
Madame,
bonjour.
Comment vous allez?
Bien. Bravo. Je donne la parole pour voyager. Pour réponse, pour m'aider de la facture.
Par exemple, là, c'est une facture d'eau et la dame, elle fait des sommes élevées, sachant qu'elle est toute seule sur le compteur. Depuis qu'on était passé vous voir avec votre facture, est-ce qu'il y a eu un changement? En gros, Rangravira, est-ce que vous avez un changement? Moi, facturier, Vandra et Semaïe.
On a un changement.
Elle nous dit qu'elle n'a pas eu de changement depuis qu'on était passé.
Est-ce que vous pouvez payer cette facture? Comment vous faites?
Tu chirnes et l'iva, yelmane, non, tu chirnes et l'iva, maratas, l'iva. C'est n'a marqué.
Elle a dit qu'elle ne peut pas payer cette facture parce qu'elle ne travaille pas et elle n'a pas les moyens pour. Cette somme.
Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces cas-là?
Oui, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Le risque pour elle, c'est que si elle ne paye pas, on risque de lui couper l'eau. Et ce n'est pas de sa faute.
Je lui vais là, il 2300. 11. 11. Parce que maintenant, quand c'est le moment, il 2200. Il est là, il est là. Comme on dit, il est là, je suis là, 20 piastres, il vit.
C'est bon, comme si nous là, c'est bon.
Oh non.
Vous allez faire quoi avec elle?
Bah, on va patienter jusqu'à ce qu'elle trouve une réponse avec les agents qui vont passer et qu'ils vont voir la fuite elle-même où elle est. Personne n'aimerait avoir cette montant de 2500
euros. Au revoir.
Au revoir, madame.
pâtisserie, ça?
Des fois, elles vendent des choses.
Ouais, c'est un petit resto. C'est un terrain de foot là qu'on voit ici?
Oui, c'est le terrain de foot de Chevani.
Toi, t'as jamais voulu faire de foot?
Non, j'aime faire du handball plutôt que le foot.
Tu joues en équipe?
Oui, un club de HS Select à Tsingoni. C'est un club qui est connu à Mayotte et oui, c'est une super équipe, HS Select. Et ce soir, j'ai mon entraînement. C'est vraiment important pour moi le sport parce que ça m'aide à oublier mes problèmes. Et en gros, avec le sport, tu peux tout exprimer là-bas, même si tu ne parles pas. Et on construit une famille qui est là pour toi et qui t'aide à oublier tes dures journées. En gros, ça n'aide pas à tout effacer, mais ça aide à te reprendre en confiance. Et le sport m'a beaucoup sauvée. Et bah, c'est bien.
Alors, la journée de travail est terminée. On quitte ton collègue Casimir pour partir pour le stade de Tsingoni, car c'est là-bas que tu fais tous tes entraînements de hand.
C'est le meilleur club de Mayotte. Avec mes cops, prêt pour la soirée. Si t'es ma hops, t'inquiète pas, ça va aller. Bout d'énergie, on travaille sur nos beautés. On t'en fait pas, ma chérie, ça va aller.
Salut. On fait quoi?
Échauffement. Ah
ouais? En gros, chacun une personne est défend. C'est pas on reste en place. Faut courir. Fille à fille.
J'aime les gens comme toi. Faut venir. On va courir ensemble.
Oh, j'ai dit qu'elle a pas de chaussures.
C'est bon.
Maïlis, t'es la première.
Alors on arrive, il est 18h, on est sur un stade donc de handball à ciel ouvert. Il y a 4 grands projecteurs. Il fait un peu moins chaud aussi qu'en journée. C'est bien de faire les entraînements le soir, ça serait impossible de jouer en pleine journée, il fait trop chaud ici.
En pleine journée, on est vraiment en difficulté quand on joue les matchs. Même le coach, il le remarque. C'est vraiment galère, il fait trop chaud à Mayotte. Du coup, on préfère 1000 fois quand on joue la nuit et quand on fait nos entraînements la nuit. Je suis née ici, je n'ai jamais quitté Mayotte à part mon équipe, je ne suis jamais partie. Mais là on a un voyage en mois de février, on va partir avec mon équipe à Madagascar.
C'est difficile de se déplacer ici parce que c'est quand même loin, par exemple ton entraînement il n'est vraiment pas à côté. Là. Quand on n'a pas de voiture, c'est compliqué.
Oui, dans la journée si on n'a pas de voiture c'est compliqué pour celles qui sont très loin. Par exemple si tu as... t'as pas de taxi ou t'as pas quelqu'un qui va te conduire ici ou qui va te ramener à la maison. S'il n'y a pas de voiture, on ne vient pas.
Et dans la journée, quand on n'a pas de voiture, être jeune à Mayotte, ça peut être un peu compliqué.
Et risqué en plus. Enfin, moi, de ma part, je ne peux pas monter dans une voiture que je ne connais pas. Et si, par exemple, il n'y a pas les moyens pour monter ici, par exemple, je ne peux pas prendre le risque de prendre un taxi. Qui la personne, je la connais pas. Par exemple, à cette heure-ci, imagine, je finis à 18h, je peux pas prendre le risque de venir ici. C'est impossible, même le coach, il accepte pas ça.
T'as pas besoin de dribbler, Sarman. J'ai le ballon, 1, 2, 3, boum. Pourquoi tu dribbles? Ça te ralentit le dribble. Voilà, bien joué, ça. C'est Bemera.
Alors, Zach, c'est un grand gaillard, 1m80, très carré, casquette noire sur la tête.
La ref? Quel ref?
Il y a des personnalités, coach, là, ici, dans l'équipe. Il y a des personnalités,
ouais,
coach.
Oui, ça va. Personnalité, c'est bien. Il faut s'exprimer. Il faut, faut échanger, faut s'exprimer, chacun est libre.
C'est la détente avant
voilà,
la dure loi du sport.
Il le faut, toujours, c'est important. C'est important, faut donner du plaisir, faut prendre du plaisir. Surtout avec tous les événements qu'on a reçus, faut les aider à s'en sortir de tout ça. Et par miracle, ça passe, ça marche.
Par miracle ou parce qu'il y a un super coach?
Non, mais pas du tout. Alors là, si moi je suis là, c'est grâce à eux et c'est grâce à elles. Mais si elles n'ont pas cette cohésion, moi je peux rien faire. Hein. Je peux être le meilleur coach du monde. Mais en réalité, c'est leur projet. On ne peut que les accompagner.
Dans n'importe quelle ville de France, c'est important de faire du sport. Mais à Mayotte, c'est...
C'est un vecteur, c'est primordial à Mayotte parce qu'on n'a pas encore beaucoup de disciplines. Donc à Mayotte, c'est ce qui prime vraiment, c'est le sport collectif.
Et cette équipe, elle est très connue ici. Hein.
Oui, c'est l'une des meilleures équipes du territoire. Hein. C'est un centre de formation. Donc ce sont des jeunes qui ont marié les études et leurs notes scolaires. Et aussi, on rajoute le comportement du jeune à la maison. Là, ça fait 10 ans, on célèbre la 10 années en juillet, la 10 années d'anniversaire. Et tous les jeunes qui sont déjà passés auparavant, ils ont tous eu leur bac. On n'avait pas encore une seule jeune qui est passée par chez nous et qui n'a pas son bac. Et ça, c'est hyper important sur le territoire. Alors, c'est par rapport au suivi qu'on fait, les bulletins scolaires. Et on accorde beaucoup d'importance à ça. Et ils n'ont pas des très bonnes notes, on les sort. L'égalité des chances a beaucoup d'importance. On se bat pour ça aussi.
Pas que du sport.
C'est pas que du sport, tout à fait. Surtout, on parle de tout ça, c'est la féminisation. À Mayotte, ben, la place de la femme à Mayotte, ça remonte encore de très très loin. Elle doit rester à la maison, faire à manger à son mari. La femme d'aujourd'hui, elle a fait ses études, elle a connu le monde extérieur, elle a été en métropole, elle a voyagé, elle détient son propre commerce, elle se débat, elle construit sa propre maison. Donc la femme d'aujourd'hui à Mayotte, c'est pas la femme d'avant.
Et donc vous aidez à former aussi des jeunes femmes de demain, enfin d'aujourd'hui.
Oui, ben il le faut parce que surtout l'accompagnement de l'après-bac, beaucoup de jeunes ici en tout cas Mayotte n'ont jamais quitté le territoire. Ils ont connu le Covid, il y a eu la dengue. En plus arrive le Chido, arrive toutes ces choses-là, ils ont l'impression de voilà, c'est le jugement dernier, que c'est la fin du monde et ils sont coupés du monde effectivement. Notre gouvernement a réellement abandonné le territoire. Hein. On est vraiment en Afrique au Moyen-Âge, ça c'est la réalité. Il faut venir à Mayotte pour voir vraiment, là, les jeunes d'avant, j'ai eu des filles ce matin, ils étaient 18, et ben il y en a 7 qui n'ont pas de basket, 7 sur les 18. Pieds nus, elles jouent pieds nus et pas de basket. Heureusement, moi j'ai beaucoup d'amis à Métropole, beaucoup d'amis qui sont entraîneurs des associations, vu qu'ils ont des baskets déjà usées ou qui sont encore en bon état, mais qui peuvent encore être utilisables. Dans notre association, ça m'a beaucoup aidé.
Et cette jeunesse à Mayotte, elle a un avenir qui est plus difficile qu'ailleurs, vous pensez ?
Je pense. Tout le monde essaie d'envoyer ses enfants vers l'extérieur pour les études. Mais les envoyer, c'est une bonne chose. Mais la plupart, ils ne veulent plus revenir. Ça, c'est le danger. Mon seul regret, c'est le niveau d'études à Mayotte. Ils ne le disent pas, ils ne veulent pas qu'on le dise. Le niveau d'études à Mayotte est plus bas par rapport à l'examen. Ça, c'est sûr, certain. Empiètement. Ça y est, elle boude parce qu'elle a fait empiètement.
Allez, Caro! Allez, Caro! Allez!
Marchez! Tout ça pour ne pas donner le ballon à Maëlys. Voilà, bien joué ça. C'est bien, Maïra. Sylvia, allez, premier poteau. Ça rentre toi, oui. Aïe, roi. Choix. Là, il a... Aïe,
c'est Sylvia qui a marqué là.
Sylvia, c'est elle qui a marqué. En plus, je la chambre beaucoup parce qu'elle tire toujours au même endroit. Et là, elle a changé. Oh, oh. Donc si c'est bon physiquement, tu as beaucoup amélioré ton jeu et je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Tu n'es pas la Sylvia d'il y a 2 ans par rapport à cette année. Rien à voir. Aujourd'hui, tu es titulaire, tu joues en senior. C'est quelque chose que tu n'aurais même pas imaginé un jour dans ta vie que tu arriverais à jouer en équipe senior et être premier du championnat. Mais c'est bien.
Merci.
Merci,
coach.
Merci.
On reprend les filles ? Ok, on y va.
Yeah.
Avoir 20 ans à Mayotte, un reportage de Laurent Kramer pour Interception. À la production cette semaine, Hélène Chevalier et Antoine Gignot. La réalisation est signée Lucie Lemarchand et Guillaume Giraud. Martine Messonnier est chargée de programme. Merci à Pierre Plantin pour la documentation musicale. Et c'est Pauline Laverdure, Vincent Désières et Sybille Clamins qui assuraient le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception au bout du monde et au coin de la rue.